S'il y avait un titre à donner, c'est Jésus revient. Et bien évidemment, soyons tous les uns les autres prêts. J'aimerais donc parler du retour du Seigneur Jésus, ce qu'on appelle autre part l'avènement du Seigneur, ce qu'on appelle aussi eh bien, la seconde venue de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer au travers de cet événement très important? Lors de cet événement, Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas un ange, ce n'est pas des archanges, Jésus-Christ lui-même viendra sur les nuées du ciel venir chercher son Église. C'est-à-dire l'ensemble des véritables croyants qui sont répandus sur toute la surface de la terre. Mais aussi ceux qui nous ont précédés, qui eh bien, sont décédés, la Bible nous dit qu'ils ressusciteront et ensemble nous partirons à la rencontre du Seigneur. Le retour de Jésus est un thème tellement, tellement précieux et tellement important eh bien, dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est aussi l'espérance eh bien, glorieuse de chacun d'entre nous. Amen ou pas amen, frères et sœurs? J'ai tellement de versets, j'ai l'embarras du choix. Je vous dis néanmoins, prenez votre stylo, un morceau de papier, eh bien pour noter tous ces différents versets que je vous donnerai donc, au fil de ce message. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21 nous dit la chose suivante, c'est l'apôtre Paul qui encourage les chrétiens de l'église de Philippe en ces termes. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Amen. On sera transformé, littéralement semblable au Seigneur Jésus. Et là, dans les nuées, avec lui, eh bien, nous partirons eh bien, dans sa demeure éternelle et nous nous réjouirons d'éternité en éternité. Vous savez, dans le ciel, il n'y aura plus de larmes, hein, plus de pleurs. Hein. Fini les souffrances, fini les impôts. Quoi d'autre encore? Plein d'autres choses. Une autre dimension, des choses qui sont ineffables. Donc, va dire notre ami l'apôtre Paul. Le sujet, il faut le savoir, traitant sur le retour du Seigneur est mentionné plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a environ 260 chapitres. Et dans ces 260 chapitres, il y a au moins 300 fois eh bien, la mention du retour du Seigneur. La seconde venue de Christ est mentionnée 8 fois plus souvent que sa première venue. Et l'apôtre Paul lui-même, à lui seul, au travers de ses épîtres, va faire mention 50 fois eh bien, du retour glorieux du Seigneur Jésus. Jésus lui-même va encourager ses disciples par une promesse merveilleuse que nous connaissons bien, Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. On va relire ce merveilleux texte qui est toujours d'actualité. C'est là aussi un verset, des versets intemporels. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comprenons ce matin la bonté, l'amour de Dieu, qui ne s'est pas seulement contenté de nous sauver, mais a cet immense désir de pouvoir eh bien, nous transporter dans son admirable lumière, dans son ciel de gloire, pour que nous puissions demeurer éternellement à ses côtés. Je ne sais pas si vous le savez, mais les dernières paroles que Jésus a prononcées et que l'on retrouve dans la Bible concernent son retour. On remarque aussi que la dernière prière que l'on retrouve dans la Bible concerne également le retour de Jésus. Regardez avec moi, je vous le démontre, Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21, c'est Jean sur l'île de Patmos qui reçoit cette vision excellente, eh bien des choses qui sont encore à venir. Et l'avant-dernier verset qui va conclure le livre des livres, la Bible, nous lisons eh bien, ce qui est inscrit derrière mon dos, et dans l'occurrence en face de moi également. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt », ce sont les dernières paroles de Jésus, et de Jean de répondre « Amen, viens Seigneur Jésus ». Mais ce « Amen, viens Seigneur Jésus » est aussi le cri de l'Église. « Viens Seigneur Jésus !» Et il est terminé par une prière de bénédiction. « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Car c'est la grâce qui va nous permettre d'arriver. Ce n'est pas nos forces. C'est s'illusionner de penser que eh bien, par notre propriété ou quelque chose d'autre, on pourra arriver eh bien, à ce saint rendez-vous. Non, c'est la grâce de Dieu qui sera eh bien, nous accompagner les uns et les autres. L'apôtre Paul lui-même, autre part, va expliquer dans son épître, l'épître aux Thessaloniciens, comment s'effectuera le retour de Jésus. C'est intéressant, Jésus n'a pas voulu nous laisser peut-être dans l'interrogation, quoique il y a tellement d'autres eh bien, interrogations qui pourraient être notre partage. Mais en tout cas, concernant eh bien, l'enlèvement de l'Église, la Bible nous dit la chose suivante, et on peut le lire, ça va nous faire du bien ce matin, et nous encourager, et même nous consoler. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, nous lisons ensemble. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, ou autrement dit le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et de l'apôtre Paul de rajouter, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sans espérance. Si ce monde peut pleurer, même sur leur mort, nous savons bien que nos bien-aimés, chers frères et sœurs, eh bien nous les retrouverons, ceux qui sont déjà partis et qui sont décédés, nous les retrouverons eh bien à ce saint rendez-vous, premièrement dans les airs, puis après le Seigneur, bien sûr, nous emmènera là où il veut nous emmener. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que eh bien, plus jamais nous serons séparés de lui. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans ce que nous avons lu au verset 17. Il nous est dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Et dernièrement, je parlais avec un frère de cet enlèvement, comment il se manifestera. C'est intéressant de plonger nos regards dans le texte original et découvrir que le verbe enlever, c'est ni plus ni moins sa traduction du mot grec harpazo. Et harpazo, en grec, signifie être instantanément emporté, être littéralement arraché, saisir à la hâte. Être ravi, c'est quelque part le même verbe, harpazo, qui a été utilisé quand, à un moment donné, quand l'évangéliste Philippe a fini de baptiser l'eunuque, la Bible nous dit que eh bien, le Saint-Esprit l'enleva, Dieu l'enleva. C'est exactement le même mot. Devant l'eunuque Philippe lui-même a disparu, littéralement, et c'est ce qui va se passer. Et tenez-vous bien, tous les journaux en feront mention. Mais où est Joël ? Comprends pas. Où est Denise ? Où est Manu ? Et Antoinette ? Oh, ne soyez pas vexés si je ne donne pas votre prénom. Mais bien évidemment, si on est en paix avec le Seigneur, les gens s'interrogeront. Et je le dis, ça c'est moi qui parle, ça c'est mon opinion. J'ouvre et je ferme la parenthèse très rapidement après. Les choses s'anticipent avec l'histoire des extraterrestres et autres, etc. Regardez sur Internet, on ne parle que de ça. Et le diable anticipe le retour du Seigneur, parce qu'il faudra bien apporter une excuse ou une explication à cet enlèvement soudain de millions de personnes. Et le diable anticipe déjà pour donner une réponse. Ce sont les extraterrestres qui les ont enlevés. Mais nous savons eh bien ce qui s'est réellement passé. Et plusieurs le sauront. Il est important, il est urgent pour nous eh bien, de comprendre eh bien, qu'il nous faut être prêts. C'est indéniable, Jésus revient bientôt, Jésus est à la porte et on a besoin de se tenir prêts. pas en nous excitant, frères et sœurs, en étant soi-même, comme on l'avait dit, eh bien, dimanche dernier, et en cherchant la face de Dieu, en se cachant en Christ, parce que ce ne sera jamais par nos propres forces. L'un des disciples de Jésus a dit, mais qui peut donc être sauvé? Et Jésus va renchérir en disant, mais personne ne peut être sauvé. C'est impossible aux hommes. Mais par contre, c'est possible de la part de Dieu. Et si nous sommes sauvés, c'est par la puissance de Dieu. Si nous sommes debout, frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. Il est primordial pour nous de nous préparer pour ce glorieux jour. D'ailleurs, Jésus a déjà averti ses disciples en leur disant la chose suivante. On peut le lire dans Matthieu, chapitre 24, les versets 42 à 44. Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, Église de Jésus-Christ, tenons-nous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Rien n'empêche au Seigneur, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir venir. Ce sera surprenant. On attend des événements, les événements précurseurs du retour du Seigneur sont littéralement tous accomplis. Et en un instant, le Seigneur peut prendre ses enfants et nous voudrions nous être fin prêts. J'espère que nos bagages spirituels sont déjà bouclés, nos valises sont déjà prêtes. Il est donc urgent de nous préparer au retour de Jésus, qui viendra, comme on l'a lu, à l'heure où nous n'y penserons pas. Alors la question est la suivante, comment puis-je me préparer? Comment pouvez-vous vous préparer? Comment pouvons-nous nous préparer d'une manière efficace? J'ai pour vous quelques exemples, quelques réponses à cette question. Mais je voudrais commencer par une réponse évidente, c'est la suivante. Je vais être fin prêt pour le retour du Seigneur, je vais me préparer au retour de Jésus en étant né de nouveau. Je crois que j'ai pas parlé assez fort. Hein. Je vais le redire. Je me prépare au retour de Jésus en étant né de nouveau. Certains pourraient dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Être de nouveau. Sans l'expérience de la nouvelle naissance, il est impossible d'être prêt pour le retour du Seigneur Jésus. C'est un docteur de la loi, un certain Nicodème qui est venu de nuit, avec des interrogations dans le cœur. Et Jésus, connaissant bien les besoins de son cœur et surtout les interrogations de son cœur, lui a exprimé la chose suivante. On peut le lire, Jean chapitre 3, verset 3. Jésus va lui dire, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et comme pour enchérir, pour enfoncer le clou, il va dire quelques versets plus bas, au verset 7, « ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut... » que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif. Et on peut bien le comprendre. Quand on est venu dans ce monde terrestre, dans ce monde physique, on a expérimenté une naissance naturelle, une naissance terrestre. De la même façon, Jésus est en train d'expliquer à Nicodème, et qui nous explique aussi aujourd'hui, ce matin, que pour entrer dans le royaume des cieux, pour faire partie de la famille de Dieu, il nous faut également de même connaître une naissance, mais cette fois-ci, une naissance spirituelle. Qu'on appelle, tout simplement, que Jésus a appelé « nouvelle naissance ». Et la nouvelle naissance dont Jésus parle est ni plus ni moins un miracle. Ce n'est pas nous qui la procurons. C'est au travers de notre démarche, lorsque nous nous repentons sincèrement, il n'y a que Dieu qui voit les cœurs. On peut verser des larmes, et ça peut être des larmes de crocodile, mais si de tout notre cœur nous prenons conscience que nous avons offensé le cœur de Dieu, nous nous repentons, nous nous convertissons à Dieu, il y a un miracle qui se produit que seul le Saint-Esprit est capable d'accomplir. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous régénère, il nous transforme de l'intérieur, il nous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau, des attitudes nouvelles. On respire de la bonne façon. On voit les gens différemment. On a envie d'embrasser tout le monde. On est rempli, on est envahi de l'amour de Dieu. Et puis on se sent surtout léger par rapport à une culpabilité qu'on portait, ces fardeaux, ce péché qui nous alourdissait. Eh bien, on en est complètement affranchi. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est un miracle qui survient dans le cœur de l'homme, qui s'est donc repenti de ses péchés et qui s'est converti à Dieu. La nouvelle naissance, elle survient quand on a compris qui est Jésus, Quand on a accepté Jésus, la lumière du monde, quand on l'a invité dans notre cœur, il se passe ce que, d'ailleurs, l'apôtre Jean va dire dans son évangile, Jean chapitre 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est qui elle? C'est la lumière. Et la lumière ici, eh bien, il est fait mention de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont, alors aidez-moi, sont nés. » On retrouve la notion de nouvelle naissance. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nul besoin, eh bien, ce matin, de se soucier d'avoir une carte de membre. Nul besoin, ce matin, eh bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça, c'est le fait même d'être adhérent d'une église, ce n'est pas ce qui est important. Et ce n'est pas ce qui va nous rendre prêts. Ce qui est important, c'est de savoir eh bien, que Jésus nous a touchés réellement et que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17? C'est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous devenons cette nouvelle créature, nous n'avons plus les mêmes comportements que nous avions avant de connaître le Seigneur. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Nous avons notre regard. Nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Nous aimons Dieu. Nous aimons sa parole. L'amour de Dieu nous aide à rejeter le mal. Et si on a besoin eh bien, de régler certaines choses, on les règle. Et les gens même qui nous connaissaient avant, ils voient maintenant des personnes différentes. On reste toujours physiquement la même personne. On a notre personnalité. D'ailleurs, notre personnalité, c'est Dieu qui nous l'a accordée. Il y a des gens qui sont calmes, il y en a qui sont un peu plus... Mais béni soit Dieu, il faut de tout pour faire un monde. Mais ce qui est important, c'est de laisser cette nouvelle naissance venir nous transformer. Un peu à l'exemple de Zachée. Sitôt qu'il a fait entrer la lumière dans sa maison, c'est-à-dire Jésus, une transformation s'est accomplie. Au point qu'à un moment donné, se levant de table, il va exprimer à qui veut bien l'entendre, en tout cas ceux qui étaient là présents, Jésus et ses disciples, il va dire, si j'ai fait tort à quelqu'un, alors eh bien, je lui restitue tout ce que j'ai pu lui prendre et je donne la moitié de mes biens eh bien, à tous les pauvres. Et Jésus de dire à ce moment-là, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans ce cœur. Vous savez, si c'est pas la peine de... On sait si on appartient au Seigneur ou pas. On sait qui on était avant et ce qu'on est devenu par la grâce de Dieu. Alors la question, elle est là ce matin, devant nous, frères et sœurs. Chers amis, avez-vous expérimenté cette nouvelle naissance dont Jésus lui-même a parlé? Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous réellement né de nouveau? Il y a de plus en plus dans les églises des personnes qui sont sympathisants, qui aiment la communion frère, c'est très bien. Mais on se pose des questions si réellement ils sont passés par une véritable repentance. Jésus a dit, si vous ne vivez pas la repentance, vous mourrez dans vos péchés. Et j'ai besoin de vous le dire de la part du Seigneur, je le dis avec amour. Si vous n'avez pas expérimenté cette nouvelle naissance, tout simplement, peut-être même seul dans votre chambre tout à l'heure, repentez-vous de vos péchés. Ce que le Saint-Esprit pourrait vous montrer, mettez-vous à genoux, peut-être même au pied de votre lit, Seigneur, je te demande pardon. Pour cela et pour cela. Et comme Zachée, cherchez à restituer, cherchez à réparer, changer de vie, changer de cœur. Et le Seigneur, voyant cette attitude, eh bien, sera accompagné votre repentance par l'action du Saint-Esprit qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement et fera de vous des êtres nouveaux. On a besoin de savoir où nous sommes. On ne peut pas marcher entre les deux. Il y a un chemin étroit, il y a un chemin qui est large. Et il est important de pouvoir marcher sur le chemin étroit, marcher derrière Jésus. Mon ami, es-tu né nouveau? Si par contre vous êtes véritablement né nouveau, alors vous êtes heureux. Car c'est dans cette condition seule que vous serez prêt pour le retour de Jésus. Une autre réponse que je pourrais vous donner et qui va nous permettre de nous tenir prêts lorsque Jésus-Christ reviendra. Je me prépare, nous allons nous préparer au retour du Seigneur en continuant ce travail de sanctification. Là, j'aurais aimé entendre un amen. Mais je sais que ce n'est pas de votre faute, c'est parce que je ne parle pas assez fort. Se sanctifier, c'est quoi? C'est se mettre à part pour Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé de nous isoler. D'ailleurs, la Bible dit, hein, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Alors, fais-toi plaisir. Et toi l'écart. Mais ce qui est important, c'est de rester, bien sûr, unis. dans la famille de Dieu. Et chaque jour, eh bien, dans notre quotidien, chaque jour, chercher la face de Dieu, chercher la face de Dieu. Se placer devant Dieu et dire, mais Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. David, le roi, le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, s'il a pu formuler cette prière, croyez-moi, nous sommes aussi appelés à pouvoir formuler cette prière. Se sanctifier, c'est donc se mettre à part pour Dieu, c'est se purifier, c'est aussi se détourner du mal sous toutes ses formes. Se sanctifier, c'est obéir eh bien, à la parole de Dieu, c'est obéir à sa volonté. C'est en ce sens-là que nous allons nous sanctifier. Et nous le savons, si nous voulons être prêts pour le retour du Seigneur, il nous faut chaque jour rechercher cette sanctification. Vous connaissez ce passage mieux que moi, Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Deux choses, la paix avec tous, autant que cela dépende de nous, comme dit la Bible, et puis la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne veux pas que l'Église d'Istre soit illusionnée. J'ai une grande responsabilité. Vous savez, monter dans ces trois marches, ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'au final, la Bible nous dit qu'il nous sera plus demandé à nous les prédicateurs, à nous qui partageons la parole de Dieu. Et j'ai intérêt à vous dire la vérité ce matin. On n'est pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour se flatter les uns les autres. On est là pour entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu qui nous invite sur le chemin de la sanctification. Celui qui se prépare réellement au retour de Jésus, il va cultiver une vie pieuse, une vie sainte. Et ça, Dieu le voit. Et Dieu va l'aider, Dieu va l'assister. Il y a cet autre passage dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3, qui nous dit la chose suivante, c'est extraordinaire. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est acquis. On est né de nouveau. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Parce que, eh bien, si nous sommes sauvés, comme dit la Bible dans le livre de Romains, en espérance. Mais d'une manière effective, ce salut va être mis au grand jour lors du retour du Seigneur Jésus. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il est précisé au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Mon frère, tu as l'espérance du retour du Seigneur au-dedans de toi? Alors logiquement, suivant ce qui est dit au verset 3, alors tu chercheras à te purifier jour après jour avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est un travail, oui, bien sûr, de chaque jour. Au-delà de nos réunions hebdomadaires, prendre ce temps, comme je le disais tout à l'heure, peut-être seul dans notre chambre, faire le point en ouvrant la parole de Dieu dans la prière et poser les bonnes questions. Seigneur, y aurait-il quelque chose qui pourrait faire entrave, obstacle, eh bien, qui m'empêcherait eh bien, de pouvoir être fin prêt lorsque tu reviendras? Je le dis d'avance, certainement la dernière semaine du mois de septembre, à nouveau, on va fléchir les genoux, on va chercher la face du Seigneur pendant une semaine, un peu moins, 4 jours, on va fléchir le genou et on va encore chercher la face du Seigneur. Croyez-vous pas qu'on n'a pas besoin quelque part eh bien, de dire, mais Seigneur, viens encore purifier mon cœur, purifie mon âme. Qui est arrivé ici? Levez la main. Si on le vous regarde, hein. On a tous besoin que le Seigneur encore nous façonne, nous émonde. On a tous besoin d'entrer dans les profondeurs, dans les dimensions eh bien, de Dieu. Et cela ne peut se faire que eh bien, dans des temps qu'on va mettre à part, où on va chercher la face de Dieu. Nous voudrions aussi voir la gloire de Dieu parmi nous. Voudrions voir davantage de miracles, la puissance de Dieu, et alors qu'on est en train de chanter, voir des guérisons littéralement qui se font dans les rangs. Est-ce que vous croyez ces choses? Rien n'est impossible à Dieu, mais il y a un prix à payer. Et ce prix, il se paie lorsque je m'engage dans la voie de la sainteté, dans la voie de la sanctification. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et nous aide à marcher ensemble et aussi de manière individuelle dans ce chemin de sanctification, car c'est ce qui nous permettra eh bien, de pouvoir être fin prêt pour le retour du Seigneur. Je voudrais prendre un troisième et dernier point. On a vu qu'il est important pour nous de naître de nouveau. C'est la condition sine qua non pour pouvoir être fin prêt au retour du Seigneur. On vient de voir qu'après être reconnu enfant de Dieu, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, il est important pour nous de persévérer dans la voie, de marcher sous le chemin de la sanctification, de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Je voudrais donner un troisième et dernier point et dire que je vais me préparer au retour du Seigneur, tout simplement, en aimant son retour. Amen ou pas amen ? Mais je vais vous le prouver. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul est en prison. Il sent que ses heures sont comptées, ses jours sont comptés. Il écrit son dernier courrier et il l'adresse à un jeune serviteur de Dieu, un certain Timothée. Et cette lettre, 21 siècles plus tard, nous est également adressée. Et cet homme va dire « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Quand je regarde le livre des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens des premiers siècles étaient fortement attachés à cette espérance qui battait dans leur cœur, le retour du Seigneur. Ils soupiraient ardemment après le retour du Seigneur Jésus. Mais la question ce matin, est-ce que notre cœur aussi a bien bat, a bien en aspirant, en soupirant après le doux retour de notre Seigneur Jésus-Christ ? Vous savez, je fais un constat, et peut-être que vous serez d'accord avec moi, je me rends compte que dans le milieu chrétien, de plus en plus, eh bien on se concentre plus sur la fin du monde que sur le retour du Seigneur. C'est subtil, mais c'est deux événements qui sont différents. Avant de parler de la fin du monde, il faut déjà parler du retour du Seigneur, il faut parler de la grande tribulation, il faut parler même du millénium, que le Seigneur doit venir vivre avec les élus ici-bas cette terre, avant de parler de la fin du monde, où là, littéralement, cette terre sera détruite. Je constate aussi autre chose, d'autres focalisent plus leur esprit sur l'arrivée de l'Antéchrist que sur le retour de Jésus. C'est subtil. La Bible parle de ces deux événements. Mais l'Antéchrist ne pourra pleinement s'installer ici-bas cette terre que si l'Église sera enlevée sur les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ce qui retient l'Antéchrist, je crois que c'est dans l'Épître de Thessaloniciens, ce qui retient l'Antéchrist, l'installation même de tout ce qu'il a projeté de faire, c'est l'Église. Nous sommes le sel de la terre. Et tant que nous sommes là, nous faisons un travail pour repousser, refouler la corruption. C'est tellement important. Le retour de Jésus doit être la priorité des priorités dans la vie du chrétien. Et peut-être subtilement, l'ennemi voudrait nous attirer autre part, nous distraire, pour nous empêcher de nous focaliser sur ce qui est le plus important. Seigneur, tu reviens bientôt. Et pour moi, personnellement, il est important que je puisse me préparer. Un autre constat que je fais, c'est qu'il y a certains chrétiens qui ont du mal à aimer le retour de Jésus. Pourquoi ? Très simple avec vous. Parce qu'ils n'y croient pas. Alors, s'ils y croient, c'est d'une manière intellectuelle. Parce qu'ils l'ont lu. Mais le cœur n'y est pas. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas aimer le retour du Seigneur. On le chante, on va le lire volontiers, mais notre cœur n'y est pas. Parce que, est-ce que c'est réellement vrai cette affaire ? Tous ces millions de personnes qui vont partir, qui vont décoller, etc. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, on l'a lu tout à l'heure, je le relis devant vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14, Paul dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Moi, je ne voudrais pas ce matin que nous puissions couper la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui, même s'ils ne le font pas physiquement, mais spirituellement, ils déchirent une page. « Ah, celle-là, elle ne m'intéresse pas. Ah, ça, j'y crois pas. » Soit nous croyons toute la parole de Dieu, ou soit nous n'y croyons pas. Et c'est ce que explique l'apôtre Paul. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux et celles qui sont morts, que Dieu soit béni. Un autre constat que j'ai fait, d'autres chrétiens ont du mal à aimer le retour de Jésus tout simplement parce qu'ils sont attachés aux choses de la terre. Je vous pose la question, D'après vous, pourquoi notre amie, la femme de Lot, alors qu'il leur avait été demandé de partir, de fuir de Sodome et Gomorre, et sur le chemin, pourquoi cette femme s'est retournée? Parce qu'elle était encore attachée aux choses de ce monde, à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle pensait, oh mon Dieu, à cette maison, c'est dommage. Après, elle pensait, et mes meubles, mes meubles. L'ange était tellement pressant qu'il nous a dit, eh bien, de laisser tout, j'ai oublié mes perles. Ma cuisine, ma dernière cuisine aménagée, dernier cri. Et elle se disait, oh mon Dieu, quel dommage de perdre tout cela. Et son regard furtif, en regardant en arrière, a été malheureusement sa perte. Elle ne pouvait aimer eh bien, l'avènement du Seigneur. Elle ne pouvait aimer le salut que Dieu lui proposait parce qu'elle était encore attachée aux choses de ce monde. Mais voyez-vous, ce matin, je voudrais rappeler que le véritable croyant, il est avant tout attaché à Jésus. Béni soit Dieu pour tout ce que Dieu nous accorde. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut bénir le Seigneur parce qu'avec Dieu, eh bien, on manque de rien. Et plaise à Dieu qui nous bénisse tous et que nous vivions, eh bien, nous soyons dans l'abondance. Mais notre cœur avant tout est attaché à Jésus et aux choses célestes. Et c'est dans ces conditions-là qu'on ne peut que soupirer après le Seigneur. Parce que finalement, le Seigneur, il est tout pour nous. Un peu comme le psalmiste, quand il a dit au chapitre 73, psaume 73, verset 25. J'aime ces paroles, elles sont fortes. Et il faut que ces paroles soient aussi les nôtres. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Alors, je pense que des personnes se focalisent sur les anges, Il n'y a qu'un seul qui nous intéresse, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul qui nous intéresse, c'est Dieu le Père. C'est l'Esprit de Dieu. Il y a un seul Dieu. Alléluia, qui se manifeste en trois personnes distinctes, le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et il va préciser, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Toute ma passion, toute mon énergie, tout mon amour, eh bien, il est en toi, ici-bas, cette terre. Et ça rejoint d'ailleurs le premier commandement que Dieu a donné à son peuple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Permettez-moi de conclure. Le retour de Jésus est un sujet pour nous d'espérance, un sujet de joie, un sujet de consolation face à toutes les épreuves, les difficultés, les souffrances même que nous pourrions traverser les uns les autres. Mais c'est aussi un événement capital pour le croyant. Pourquoi ? Parce que ce retour est finalement l'aboutissement de toute notre foi, l'aboutissement de toute notre persévérance, les souffrances qui sont liées à notre foi, c'est l'aboutissement eh bien, de tout ce qu'on aura déployé, eh bien, tout ce temps qu'on a passé ensemble, c'est l'aboutissement de notre vie terrestre chrétienne. Et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas rater le coche. Il faut être là au rendez-vous. Et pas se croire certaines choses. Ah, je croyais que... Seigneur, donne-moi être prêt. Et il nous a donné trois pistes ce matin. Il nous a rappelé trois pistes pour que nous puissions être prêts. Premièrement, nous assurant que nous sommes véritablement nés nouveaux, que nous soyons véritablement des chrétiens et pas des pseudo-chrétiens. Que nous puissions aussi eh bien, marcher chaque jour dans la sainteté et l'obéissance à Dieu. Et puis enfin, que nous puissions attendre avec amour le moment où Jésus viendra sur les nuées. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que notre entendement ne soit pas engourdi, mais ce matin, vif pour recevoir tout ce que Dieu eh bien, a voulu nous dire ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, voici ceux et celles que tu as sauvés. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Un jour, tu as croisé notre route, tu as fait de nous tes enfants. Et nous t'en remercions. Père céleste, tu connais ceux et celles qui t'appartiennent ici en ces lieux. Mais peut-être y a-t-il en ces lieux des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes hommes qui ne t'appartiennent pas. Seigneur, ma prière, c'est que tous ici soient sauvés. Ma prière, c'est que tous ici soient nés nouveaux et que leur nom soit, Seigneur, immédiatement inscrit dans ton livre de vie. Mais tu ne forces personne. Tu l'as dit toi-même, tu es à la porte et tu frappes. Et tu as dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, mon Dieu, nous qui avons fait ce pas, nous qui t'avons accepté comme sauveur et Seigneur, nous qui nous sommes repentis, aide-nous jour après jour à marcher de sanctification en sanctification. Tu l'as dit toi-même, que celui qui se sanctifie encore. Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, donne-nous à aimer, Seigneur mon Dieu, ton retour. Donne-nous à soupirer auprès de ta, Seigneur mon Dieu, auprès de ta présence, de ta personne, Seigneur. Car Seigneur mon Dieu, ici-bas sous la terre, il n'y a que toi qui nous intéresse. Tu es tout, tu es avant toute chose, et nous voudrions que tu règnes sur nos cœurs. Seigneur, pardon si nous avons dévié. Pardon quand nous nous sommes relâchés. Pardon, Seigneur Père mon Dieu, pour nos choix insensés. Pardon pour notre folie. Quelquefois, nous te prouvons, nous te montrons par A plus B. Seigneur, que, Seigneur mon Dieu, nous sommes insensés, inconscients. Pour certains, Seigneur mon Dieu, ne croyant pas, Seigneur mon Dieu, à ton retour. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Fais-nous grâce. Purifie l'Église d'Istre. Seigneur, donne-lui encore d'aller de l'avant, Seigneur Jésus. Père céleste, afin que, Seigneur, lorsque tu reviendras, Seigneur, nous ne soyons pas dans la confusion, mais dans une profonde joie. De pouvoir être éternellement à tes côtés. Que ton nom seul soit béni, Jésus. Amen et amen. Frères et sœurs, repartons avec ces paroles et cherchons la face de Dieu, recherchons la sanctification. Que Dieu vous bénisse les uns les autres.